Vous écoutez
RMC. RMC, le vestiaire des GG.
Parce que les GG cette semaine, c'est ce qui nous a marqué. Elle est vraiment, elle est super énervée, ça.
Ah non, mais je lâcherai pas.
Ouais, j'ai compris.
Je lâche pas, ça.
Ce qui nous a marqué, c'est Rudy Gobert, donc le pivot français des Minnesota Timberwolves en NBA, qui a été élu, je vous rappelle, 4 fois meilleur défenseur de l'année de la Ligue, hein, dans sa carrière. Et bah, cette année, pas le cas du tout, hein, parce qu'il a été classé 4e, loin derrière Wemby, qui a été sacré. Un manque de respect, a dit l'intérieur français, qui a réagi derrière avec des performances XXL en playoff, notamment face aux Denver Nuggets de Nikola Jokic, qui est l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Donc il a montré, en tout cas ça l'a motivé, ça lui a servi de carburant. Les GG, à travers vos expériences, je voudrais qu'on parle de ça. Quand l'ego est touché par le manque de reconnaissance, carburant ou au contraire quelque chose qui vous met en difficulté. Denis, tiens, on va commencer par toi. Ça te parle là, ce qui s'est passé avec Rudy Gobert ?
Bah oui, ça nous est tous arrivé.
Est-ce hein, que tu lisais ce qu'ils disaient sur toi ?
Mais lisait à l'époque, on n'était pas dans la médiatisation d'aujourd'hui, il n'y avait pas les réseaux, donc.
Est-ce qu'un lendemain de match, tu allais au kiosque acheter le journal sportif ?
Non, mais il y a toujours quelqu'un qui te rapportait. Mm. Toujours.
Ouais,
un copain, la famille. Toujours, t'avais quelqu'un qui te disait, t'as vu, il y a ça, on t'a dit ça sur toi, sur tel. Toi, tu lisais. Moi, je lisais pas l'équipe. Tout. Enfin, si l'équipe, j'ai toujours lu l'équipe. J'aime bien. J'ai toujours eu cette religion-là. J'avais cette religion de lire l'équipe tous les jours. Mais évidemment, quand tu tombes sur un. Alors, moi, je pense que nous, quand on est en activité, les sportifs, on n'a pas forcément le recul nécessaire pour savoir si.
C'est constructif ou pas.
Oui, voilà.
Si puis, c'est
on pense toujours
pas.
Qu'on a raison. Et même si je savais si j'avais fait un bon match ou pas un bon match, mais j'avais pas envie de dire que j'avais fait un mauvais match. Voilà. Donc, il y a quand même l'orgueil qui. T'as toujours l'orgueil qui est touché, quoi.
Alors, ça te servait, toi, ou pas?
Bah, ça servait, oui, des fois, ça me piquait, oui, vraiment. Ouais.
Mais genre, ouais.
Non, mais piqué.
Quoi, le match suivant.
Mais t'avais la haine, tu te dis, mais pourquoi?
T'es allé mettre des tartes à des journalistes qui avaient écrit les mauvais.
Non, mais alors figure-toi, j'ai raconté ça un jour. Il y avait un journaliste après. Je joue France-Angleterre, je suis buteur, j'avais fait un film qui sortait le mercredi. Et donc, tout ça dans la même semaine, on prend 35 points au Parc des Princes contre l'Angleterre. J'étais buteur, tout catastrophique. Et le lundi matin, il y avait une deuxième page de l'équipe, il y avait un article, citron pressé, donc c'était moi.
Et pourquoi citron pressé?
Parce que j'étais dans l'actualité, j'avais fait une par ailleurs avec Gildas le mardi, le film sortait le mercredi.
C'était quoi, un Sagittorix ?
Non, un film avec Margot Hemingway. Ouais. Et le samedi, je jouais l'équipe de France. Mais tu vois, pour un sportif de l'époque, c'était pas du tout.
Alors qu'on tenait du bon, aujourd'hui, ça passe plus.
Non, mais voilà. Tu nous l'avais déjà raconté, cette anecdote. Mais est-ce que avant de jouer un match,
ce citron pressé, je l'avais pris en pleine gueule. C'est-à-dire, le lundi matin, je me souviens, j'étais redescendu le lundi matin, j'étais intronisé à la truffe. À Cahors, à côté de Cahors.
Non, mais là, tu les as enchaînés, là.
Non,
rien aux histoires de Denis. Il y a des citrons, il y a des truffes.
Non, il y a Versailles-Gétorix.
Non, je vais dans le détail parce que ça m'a tellement marqué. J'étais intronisé à la confrérie de la truffe à l'Albergue.
Ça s'appelle bien la truffe.
Et je suis dans un avion, il y a quelqu'un qui me montre l'article, ça s'appelle Citron pressé. Et quand je le lis, je ne sais pas que c'est moi. Et c'est vrai que c'est un truc de fou, c'est que tout l'article est sur moi et est vraiment très très dur. Très très dur parce qu'en
mais
fait.
Mais quand tu lis, tu penses que c'est pas toi ?
Non, mais je sais pas que c'est moi. Il y a marqué citron pressé, mais il n'y a pas mon nom.
Non, mais est-ce que derrière, tu t'en sers pour être plus performant ?
Non, mais là, je
est-ce
te
que
jure,
c'est de l'essence.
Quand je lis l'article, j'ai une haine, mais je te jure, d'abord, je suis abattu parce que d'abord, on a perdu contre l'Angleterre, j'ai pas été bon, peu importe.
Mais est-ce que tu te dis, je vais leur prouver qu'ils se sont trompés ?
Bah, sur le coup, je suis abattu, mais sur le coup, oui, sur le coup, je suis révolté, j'ai qu'une envie, c'est de lui prouver qu'il a tort. Mais en même temps, je te l'avais raconté, mais 10 ans après, je me suis aperçu que ce gars-là, il avait raison, en fait, sur toute la ligne.
Sarah.
Mais sur le moment,
tu veux que je te dise ce que je pense de l'histoire de Denis? Non, je réfléchis.
Tu préfères la truffe ou le citron?
je préfère
non, mais je t'ai donné
cette truffe citronnée.
Je parlais de ça parce que je me souviens très bien du moment précis et ce traumatisme-là, parce qu'en fait, c'était un traumatisme.
Est-ce que ça t'importait ce qu'on se disait sur toi?
Évidemment que ça importait. Et comme Denis, je jouais pas du temps où il y avait les réseaux sociaux, donc les commentaires gratuits, on m'a été épargnés. Les commentaires étaient.
Oui, c'était pas virulent.
Les commentaires étaient faits par des journalistes qui avaient cartes de presse. Et moi, ça me touchait beaucoup. Je trouvais ça injuste, parce que parfois on écrivait, mais à l'époque, encore une fois, on voyait pas des replays de nos matchs à longueur de temps. Donc il y avait une sorte de raccourci et d'injustice que je prenais de plein fouet. Et c'est vrai que moi, ça me motivait pas. Au contraire, ça me...
Ça te perturbait au point de...
Ça
de...
me marquait, mais ça me révoltait pas. Ça me marquait sur le plan négatif, en fait. Mmh. Et ça me donnait encore plus peur de jouer à Roland-Garros ou dans des endroits où on était surexposé, puisque, on va dire, 9 mois sur 12, on était à l'autre bout du monde et nos matchs n'étaient pas souvent rediffusés. Donc, quand j'arrivais à un moment où là, il y avait l'exposition médiatique, en fait, il y avait ce poids-là, et au lieu que ça me motive, ça avait tendance à mettre dans un petit trou de souris.
Pourquoi
quoi.
Tu le lisais?
Bah parce qu'il y a toujours quelqu'un qui te le dit.
Mais non, tu le rapportais. Oui, mais même toi, tu allais lire.
Oui, j'allais lire. Bah parce qu'il y a un moment, tu veux savoir ce qu'on dit sur toi.
T'en as marre à un moment donné, tu veux voir.
Bah oui, tu veux voir.
Et pourquoi? Parce que c'est aussi ta réputation. Parce qu'au final, ta réputation, c'est pas tes matchs.
Bah c'est ce qu'on pense de toi, en fait.
Mais c'est l'ego surtout, je trouve. C'est l'ego qui est touché au plus profond.
C'est ce qu'on voit de toi. Qu'est-ce qu'on voit de toi? Ce qu'on voit, c'est quand t'es sur le terrain de tennis. C'est quand t'es sur le rectangle.
En fait,
mais
on
tout
voit
le reste
l'humain.
Du temps, les gens te connaissent pas. Mmh. Encore une fois, parce qu'on n'était pas exposés de la même manière. Donc, en fait, les gens avaient un avis sur toi, sur le comportement que tu avais sur le court.
Alors, ils ont pas forcément vu tes matchs.
Pas, et comme j'avais pas un comportement 100% exemplaire, c'était difficile à vivre. Voilà.
Non, mais en fait, ça t'agaçait. T'arrivais à Roland-Garros. Peut-être que des gens n'avaient jamais vu tes matchs. Mais comme ils avaient lu, Sarah Pitkovski a un comportement exemplaire.
Mais ça m'a dit qu'il y a
une image de toi.
Il avait tendance à pleurnicher pour un oui et pour un non. Oui, c'était pas facile à vivre.
Non mais Sarah, la réputation, ça va très vite surtout.
Mais bien sûr.
Ça va très vite sur des choses qui sont parfois fausses.
Mais c'est pour ça que ça t'atteignait vraiment négativement, Sarah. Toi les deux, Denis, toi Marion, comment tu t'en servais de ça? Tu l'as vécu aussi. Est-ce que tu lisais ce qu'il disait sur toi?
Bien sûr. Là, je suis complètement d'accord avec Denis et Sarah. C'est qu'effectivement, même si on essayait de pas lire, de toute façon, ça nous revenait toujours aux oreilles d'une manière ou d'une autre. Moi, c'était plus mon entourage qui était fortement marqué parce que ça les atteignait beaucoup plus que moi. Moi, en revanche, je m'en suis servi comme un carburant énorme. C'est-à-dire que pour moi, j'allais leur démontrer qu'ils avaient tort. Alors, moi, j'avais une double attaque. C'est-à-dire que j'avais une attaque, effectivement, sur mon jeu qui était atypique. Et puis, j'avais surtout des attaques énormes sur mon physique. Et ça blesse encore plus parce que quand vous entendez sur une très grande radio nationale de toute façon Marion Bartoli elle est grosse donc on comprend pas pourquoi elle joue au tennis, j'ai quand même eu le commentateur officiel de la BBC en direct sur la BBC quand je gagne Wimbledon en 2013 qui dit, je traduis, est-ce que vous pensez que le père de Marion Bartoli lui a dit toute sa vie, de toute façon comme tu seras pas un canon de beauté comme Maria Sharapova, t'as intérêt à t'entraîner plus que les autres si tu veux gagner. Oh, alors je pensais que Wimbledon c'était plus un tournoi de tennis qu'un concours top modèle, effectivement non. Peut-être que je me suis trompée, mais bon ça allait tellement loin que la ministre des Sports anglaise a écrit une lettre à la BBC pour demander le renvoi de cette personne. Mais quand vous venez de remporter un tournoi du Grand Chelem sans perdre un set et que le commentaire que vous recevez c'est ah oui mais finalement elle a gagné, ok mais elle est pas belle,
non,
bon,
mais
je
Marion,
trouvais ça quand même un peu fort de café.
C'est surtout pour le coup toi ce que tu le décris c'est hyper violent.
C'est violent.
C'est-à-dire que
on va au-delà
du sport même, oui.
Non mais
c'est une attaque personnelle.
Ça t'atteint, mais t'arrives assez rapidement à le changer parce que ça peut pas être neutre en fait.
Ça peut pas être neutre, mais je m'en suis servi comme carburant je pense que ça peut pas avoir été la seule parce qu'une image qui m'a vraiment marquée, c'est quand Andy Murray remporte son premier Wimbledon en 2013, sa première réaction. Et là, quand vous gagnez Wimbledon, en plus en étant anglais, la réaction que vous avez à ce moment-là, elle est totalement subconsciente. C'est-à-dire que vous êtes dans un tel état que vous vous rendez même pas vraiment compte de ce que vous faites. C'est vraiment le subconscient qui parle. Il se retourne vers la tribune de presse en serrant le poing. C'est-à-dire qu'il en a tellement pris plein la figure pendant tellement d'années, notamment la finale qu'il perd contre Roger Federer l'année précédente en 2012, où il est en pleurs devant Subacker quand il fait son speech sur le terrain, que la première action quand il gagne, c'est se tourner
Marion,
la tribune de presse
en disant,
Christophe
Dugarry en 98, quand il marque contre l'Afrique du Sud. Avec l'équipe de France, c'est comme Samir Nasri pendant l'Euro, où il dit juste derrière fermez-la aux supporters. Parce que parfois, ça peut être aussi un carburant un peu toxique. Fermer les bouches que non, le
parfois,
message est pas.
Georges, parfois c'est un acharnement pour certains. C'est-à-dire que.
Pour un sportif.
Ouais. Pour un sportif, oui. Donc les journalistes s'acharnent sur un sportif. C'est un engrenage qui fait comme on est, même si c'est gratuit, même si c'est pas vrai, même si c'est.
Non mais, alors.
Julia Simon, lors des Jeux.
Ça continue.
La biathlète,
oui. Même chose. Hein.
Non mais toi, du coup, Marion, quand tu gagnes Wimbledon, est-ce que assez rapidement, quand tu vois par exemple ton visage à la une de l'équipe le lendemain, c'est ton sentiment, c'est aussi une revanche.
Ah mais c'est une vengeance énorme. On m'a tellement dit depuis les catégories de jeunes, dans tous les rassemblements nationaux, mais non, mais attends, mais pourquoi tu continues au tennis? En fait, on comprend pas. T'es forte à l'école, retourne à l'école. Tu auras beaucoup plus d'avenir en allant à l'école, en faisant des études, qu'en jouant au tennis. On comprend pas pourquoi tu continues à jouer au tennis. Je l'ai tellement entendu pendant toute ma jeunesse que ça a été une revanche, mais colossale. Mais ce qui m'a fait le plus rire, c'est que comme il y a beaucoup de journalistes sportifs qui continuent, bien évidemment, à commenter les matchs pendant 20, 30, 40 ans, etc., qui me massacraient quand je jouais.
Et maintenant, ils sont
je me retrouve à devoir commenter avec eux maintenant. Ça, c'est quand même très, très drôle. Mais oui, parce que c'est quand même fabuleux.
Eric Salio, par exemple. Eric Salio, c'est lui qui avait dit à l'époque.
Non, je ne citerai pas de nom. Je ne citerai pas de nom, mais c'est la tortille. Je ne dirai rien.
Non, mais c'est vrai que c'est intéressant quand tu passes de l'autre côté de la barrière derrière, que tu travailles pour les médias.
Mais alors, justement, quand tu passes de l'autre côté, est-ce que tu comprends mieux aussi le travail des journalistes lorsque vous êtes tous les trois passés de l'autre côté, parce que c'est vrai que souvent quand on est athlète de haut niveau, le journaliste c'est l'ennemi, c'est celui qui vient de titiller, oui, qui vient de poser des questions
au-delà des attaques personnelles comme l'a vécu Marion, évidemment, ouais, voilà, évidemment sur les critiques sportives.
Mais alors moi pour te répondre, moi j'ai aujourd'hui parfois je suis confronté, alors j'ai des joueurs que j'ai sélectionnés, les Barbarians, tu vois, que je connais, que ça, je sais que parfois ils m'en veulent pas, mais bon, ils sont un peu, tu vois, je les titille, parfois j'ai une critique comme ça. Moi, je vous dis ce que je pense.
Tu avais été terrible avec Philippe Saint-André,
non, après ça, tout. Du monde. Oui, mais bon, oui. Il m'en veut encore. Non, mais, mais je veux dire, non, mais c'est vrai que.
Mais c'est vrai que c'est intéressant. De l'autre côté de la barrière, est-ce que tu dis, j'aurais pas aimé qu'on dise ça sur
Oui, mais ouais. Absolument. Absolument. Mais c'est vrai, parfois, je regrette ce que je dis, parfois. Vraiment, non, mais par rapport au joueur que j'ai été, c'est pas, je dis
mais
pas,
alors, pas par rapport. T'as des cas de conscience, en fait.
Oui, pas par rapport à la critique en soi. Je me dis, peut-être que ça touche trop, ça, dans la profondeur, tu vois, une âme de joueur que j'ai pas touché, en fait, et que je vais toucher comme ça, gratuitement.
Est-ce que t'es plus méchant avec les joueurs que tu connais pas, par exemple, qu'un joueur que t'as sélectionné chez les Barbarians, par exemple?
Pas du tout. Non, mais Sarah, c'est intéressant. C'est toi qui étais très touché par la critique. Est-ce que quand tu deviens chroniqueuse, tu te dis.
Elle est consultante et puis elle est à l'épaule de vache, en plus, Sarah, hein.
C'est
à toi. Allez, lance-toi.
Mettez-moi un ring là. Mettez-moi un ring. Donnez-moi des gambas. Non, quand j'ai arrêté ma carrière, j'ai commenté pendant quasiment 10 ans. Et c'est vrai que les premières années, oui, il y avait une bienveillance parce qu'en fait, je me souvenais de ce qu'on pouvait dire.
Je pense qu'elle disparaît petit à petit.
Mais ouais. En fait, tu sais quoi? Parce que en fait, c'est en fait ça te crispe, c'est-à-dire que quand il y a pas une qualité à un moment ou un autre, et ben
oui,
et ben
t'en veux plus, ouais.
Je pense que ta critique elle devient plus acerbe avec les années, mais au début tu commentes encore sur l'émotion, c'est-à-dire que tu ressens viscéralement ce que la joueuse est en train de vivre sur le court, c'est-à-dire que quand t'es en train d'enchaîner 3 doubles fautes ou qu'il y a pas un coup droit qui va dans le court,
tu peux pas la critiquer comme on me critiquait moi sur un match comme ça.
Exactement, c'est-à-dire que quand tu vois la balle qui a une fille qui peut plus mettre la balle dans le court, et mais tu sens que c'est le stress qui te prend, mais quand t'es proche de la fin de ta carrière, tu ressens viscéralement ce qu'elle a ressenti sur le court. Mais avec les années, ces émotions elles disparaissent. Donc en fait, tu deviens presque un commentateur journaliste avec un détachement qui fait que non mais sérieux, elle peut pas la mettre dans le court cette balle, tu vois ce que tu dis, mais pourquoi elle cherche la ligne?
Non mais c'est intéressant.
Donc, en fait, et ton évidemment, commentaire évolue, et c'est tous d'ailleurs pour ça qu'au petit à petit j'ai arrêté de commenter, parce que je sentais moi-même
que tu donnais trop
mais
dur.
En fait que j'avais plus la bienveillance qui devait être associé au journaliste à ce moment-là, parce que je devenais trop exigeante sur ce que je voyais au final.
Non mais Marion, c'est hyper intéressant ça pour le coup, les anciens sportifs quand vous devenez consultant, est-ce qu'il y a des cas de conscience comme ça sur quel type?
Je pense que ça dépend
évidemment
vraiment.
Nous médias, on vous demande d'avoir une opinion, on veut évidemment votre expertise, oui, et justement de ne pas être dans la protection des athlètes, mais c'est des cas de conscience, Marion, quand tu passes de l'autre côté.
Alors, pour ma part, et là encore, je parle vraiment que pour ma part, c'est vrai que moi, il y a un élément où j'ai vraiment beaucoup de mal, c'est l'attitude. Et je pense que ça vient aussi de mon éducation, et l'éducation que j'essaie d'enseigner à ma fille aussi, c'est-à-dire que pour moi, le comportement sur le terrain doit être, si possible, le plus exemplaire possible dans la combativité. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal avec des joueurs parfois qui, comme on le dit assez vulgairement, balancent les matchs. Où là, je vais avoir du mal à l'antenne à ne pas le dire. En revanche, être très critique sur le niveau de jeu, je vais avoir beaucoup de mal à l'être parce que pour avoir joué des matchs absolument horribles. On sait à quel point le joueur est tellement meurtri par ça que je vais pas en rajouter. Donc je vais être plus dans l'empathie, essayer d'expliquer ce qui se passe, essayer d'expliquer pourquoi le joueur ou la joueuse à un moment perd pied. Pourquoi aussi c'est jamais perdu, parce qu'on peut retrouver des sensations au sein d'un match, parce qu'on l'a vécu, on peut très mal commencer puis bien finir, ou inversement. Et donc on essaye d'expliquer tout ça à l'antenne avec... En tout cas, je tombe
objectivité.
Parfois, je suis trop critique, mais avec le plus d'objectivité et d'empathie possible. Mais on a aussi un devoir d'expliquer les choses telles qu'elles le sont. Donc, on peut pas dire que c'est fantastique si ça joue horriblement mal. On doit avoir un certain recul pour décrire ce que l'on voit avec notre expertise et notre œil d'expert. Mais j'essaye toujours d'avoir l'empathie parce que comme j'entraîne aujourd'hui, que je suis quand même quotidiennement sur le terrain et que je continue à frapper beaucoup de balles, il y a des jours où je me dis, mais là, pourquoi mon revers, auparavant, je mettais tous à 20 cm de la ligne et là, ils se tombent tous dans le carré de service. Donc, il y a quand même un petit problème. Et donc, en fait, en gardant aussi un contact avec le terrain, mais tu t'aperçois, c'est quand même pas si facile que ça tous les jours. Et donc, tu gardes un petit peu plus de recul par rapport à la performance. Mais il est vrai que sur l'attitude, j'ai beaucoup de mal avec les joueurs qui se battent pas, qui lâchent des matchs, parce que ça, c'est tellement contre ma nature que j'ai pu parfois être trop sévère. Et effectivement, je le reconnais. Mais bon. C'est le fond de ma pensée sur l'éducation que j'essaye de, enfin que j'essaie d'imposer.
Bien sûr, c'est la valeur sur le terrain, la valeur de porter le maillot du 15 de France, par exemple Denis. Oui, donc,
c'est
forcément exigeant.
Elle parlait de respect. Je suis entièrement d'accord avec Marion. C'est ça, c'est le respect. C'est à un moment donné une attitude qui va me déplaire et je vais la dénoncer. C'est évident. Il y en a eu, je vais pas les citer maintenant, mais il y a eu des attitudes qui m'ont pas plu. Je les ai dit. J'ai pas eu peur d'en parler.
Et puis on n'est pas tout à fait. On n'a pas tout à fait le même commentaire quand on juge ou quand on commente un Français que quand on commente une performance d'un étranger.
Oui. Non, mais il y a
oui, on a forcément un peu plus de retenue.
Un peu gardien.
Oui, voilà. On est un peu plus indulgent aussi et on est un peu plus enthousiasmant.
Et des fois, on peut être plus dur aussi. Attention, avec justement le champion qu'on attend.
Oui, si c'est un champion qu'on attend, bien sûr.
Tiens, Mariette me dit sur WhatsApp, une fidèle auditrice des grandes gueules du sport, supportrice de l'UBB, qui nous dit l'ego touché par le manque de reconnaissance. Oui, c'est un carburant. Regardez Mathieu Jalibert. Alors lui, pour le coup, c'était plus un manque de reconnaissance du staff du 15 de France. À l'époque, ça a pu lui servir.
Bon, oui, bien sûr, ça l'a nourri. Et du coup, il a rebondi, il a travaillé, c'est tout à son honneur.
Il a dit aussi que la famille de l'UBB, en tout cas le staff de l'UBB,
l'avait aidé aussi.
Ouais. Et je pense que ça, c'est important de se dire que oui, c'est peut-être remis en cause sur le plan national.
Il s'est remis en question, il a travaillé la défense, il a changé une grande partie de son jeu.
Piqué au vif, peut-être que
c'est un bon exemple. Lui, c'est un bon exemple, ça l'a piqué, il est revenu plus fort et aujourd'hui. Mais on a remis à la confiance. La confiance, elle vient de partout, mais il faut aller la chercher aussi. Donc,
faut être bien entouré. Je pense pas que l'ego, tu le vives. Enfin, tu rebondis pas tout seul.
Non, mais il faut bien être entouré. Tu as raison.
Allez, on referme la porte du vestiaire. Quand l'ego est touché par le manque de reconnaissance, comment s'en servir? Fascinant de vous écouter comme d'habitude. Tiens, je vais faire un test pour voir si ça marche. Christophe, je pense que tu vas complètement planter dans les jeux du sport.
Je pense
que tu vas être nul. Là. Tu vas être nul,
mais je suis nul,
comme d'habitude.
Ah ouais?
J'ai bien progressé aux fléchettes, moi.
Très bien. Mais c'est bonne nouvelle. On est content.
Je compense.
C'est important que les auditeurs soient au courant, en tout cas, un petit peu les choses qui te font avancer dans la vie.
Les gens aiment bien.
Qui sont tes carburants, les gens aiment bien.